Vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Au programme aujourd'hui, on vous parlera d'IA et de journalisme, mais d'abord, on revient sur le vote de nouvelles règles budgétaires au Parlement européen et sur leurs conséquences au niveau belge. Je m'appelle Sarah Saadi Garcia. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Ce mardi, le Parlement européen a voté le nouveau cadre budgétaire censé permettre de redresser les finances publiques sans pour autant empêcher les investissements. Quoi qu'il en soit, pour la Belgique, l'effort d'assainissement sera de nouveau conséquent et bien plus qu'il y a 25 ans. Alors concrètement, quelles conséquences auront ces nouvelles règles budgétaires sur le pays, sur ses dépenses publiques, ses investissements et sur ses citoyens? Dominique Berndt, journaliste au Pôle Économie, répond avec nous à ces questions et va même un peu plus loin. Bonjour Dominique.
Bonjour Sarah.
Alors pouvez-vous tout d'abord revenir sur ce qui a été voté mardi au Parlement européen? Quel est l'objectif?
Mardi, les eurodéputés ont voté à la majorité les nouvelles règles budgétaires européennes, le nouveau cadre qui encadrera les finances publiques des États membres. Le cadre précédent avait été suspendu face à la pandémie de Covid et n'avait pas été réactivé depuis, parce qu'il avait fallu faire face également à l'envolée des prix de l'énergie qui avait suivi l'invasion russe de l'Ukraine. De nouvelles règles ont été élaborées. Sous base d'une proposition de la Commission, les États membres se sont entendus sur le nouveau cadre à la fin du mois de décembre. C'est passé en trilogue. Comme on dit, ça a été négocié avec les parlementaires européens qui n'ont pratiquement rien changé. Et donc, c'est cette version-là que les parlementaires européens ont approuvée hier, ce mardi. Ils n'adressent plus qu'au Conseil européen, aux États membres de les approuver à leur tour et elles vont entrer en vigueur.
Alors très concrètement, pour la Belgique, qu'est-ce que ça signifie? A-t-on déjà une idée de l'effort budgétaire nécessaire?
L'effort sera important. Il n'y a pas d'estimation officielle. On dit qu'une estimation ou des études ont été faites par la Commission, on ne les a pas. Donc nous ne les avons pas, les parlementaires européens qui ont voté ne les ont pas non plus. Vous apprécierez quand même la démocratie. Mais l'Institut Bruegel, un think tank d'affaires européennes qui est installé pas loin du soir ici à Bruxelles, a fait des estimations pour l'ensemble des États membres et pour la Belgique. Sur base d'un plan d'ajustement de 7 ans, la Belgique devrait faire 30 milliards d'économies sur 7 ans. Donc ça veut dire quelque chose comme 4 milliards et demi chaque année. Donc chaque année, pendant 7 ans, aller trouver en recettes ou en dépenses, ou en augmentation de recettes ou en baisse de dépenses, 4,4 milliards.
Le pays a-t-il déjà eu affaire à ce type d'effort budgétaire justement par le passé?
C'est pas la première fois, en effet. La Belgique a opérer des phases de consolidation budgétaire, d'assainissement budgétaire, à trois reprises dans le passé, plus ou moins sévères, de 82 à 87, puis de 93 à 1998, et puis de 2011 à 2017. Et justement, la question que nous nous sommes posés au soir, c'est de se dire, cet ajustement qui vient, celui que va nous imposer les nouvelles règles, comment se compare-t-il aux ajustements réalisés dans le passé, durant ces trois périodes où les Belges ont plus ou moins dû contribuer au rétablissement des comptes publics?
C'était des mesures qui ont été parfois très lourdes, avec quelles conséquences? Comment ça se matérialisait?
Ce que nous avons constaté, c'est que par rapport à la période d'assainissement de 2011-2017, l'assainissement futur sera nettement plus important que l'assainissement réalisé entre 2011 et 2017. Il sera au moins aussi important que l'assainissement des années 90. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on évite les mesures et l'assainissement très douloureux des années 80. Qui là, vous parlez de mesures, eh bien, il y en a une flopée. La première mesure prise par le gouvernement en 82, c'est de dévaluer le franc belge, de manière à restaurer la compétitivité. Cela impose, pour réussir, qu'il y ait un blocage des salaires. Donc, on part déjà sur un blocage des salaires. Puis viendra, dans les années suivantes, des mesures d'assainissement budgétaire. Alors, on se souvient des sauts d'index, c'est-à-dire à trois reprises, les salaires ne seront pas indexés, donc en 84, 85, 87. Donc ça s'ajoute au gel des salaires des années précédentes. Ces sauts d'indexation vont servir en réalité à restaurer les finances publiques, alors que le gel des salaires du début servait à restaurer la compétitivité. D'autres mesures vont être prises dans les dépenses publiques, on va couper, couper notamment massivement dans les investissements publics, dans les transferts aux communes ou encore dans les dépenses sociales. Il y a aussi des hauts impôts à l'époque, hein. On relève le précompte mobilier de 20 à 25%. Et puis, l'État profite d'une caractéristique qui existait à l'époque, le fait que les barèmes fiscaux de l'impôt des personnes physiques n'étaient pas indexés. Or, l'inflation était élevée à l'époque, dans les 8%. Chaque année, les prix augmentaient. Ce qui veut dire qu'en réalité, la non-indexation des barèmes fiscaux faisait en sorte que la pression fiscale sur les travailleurs s'accroissait tout à fait naturellement à cause de cette inflation élevée. C'était une autre ponction sur les revenus des Belges. Alors l'assainissement qui est devant nous va être de la même ampleur depuis les années 90. Là aussi, des mesures assez solides ont été prises pour assainir les finances publiques. Là, le plus drôle, c'est que, je viens vous expliquer que les barèmes de l'IPP n'étaient pas indexés dans les années 80, il a été décidé de les indexer à la fin des années 80, une sorte de retour du cœur. Sauf que de 93 à 98, l'indexation a été suspendue. Donc on a de nouveau laissé la pression fiscale s'accélérer. L'effet était moins fort que les années 80 parce que l'inflation était un peu plus faible malgré tout. Mais l'effet était très net. On a également absorbé une contribution complémentaire de crise. On a relevé le taux de TVA de 19,5% à 21%. Et ça s'ajoutait à un plan de restauration de la compétitivité qui prévoyait aussi un gel des salaires réels pendant 2 ans. Vous voyez, ce sont des mesures qui ont fait mal. D'ailleurs, l'année 93, l'année du plan global, les plus anciens s'en souviennent, a été une année de grève et de manifestations assez fortes. Sur les mesures qui peuvent être prises, je n'ai pas de boule de cristal, vous le comprendrez bien. Ce qui est important de comprendre, c'est les circonstances dans lesquelles cet assainissement devrait être fait. D'abord, comprenons bien que nous sommes où la croissance va être faible. Faible dans la même manière qu'elle l'était dans les années 2010. Alors, on peut se dire que dans les années 2010, les gouvernements n'ont pas fait beaucoup d'efforts. C'est vrai, ils n'en ont pas fait beaucoup. Mais s'ils n'en ont pas fait beaucoup, c'est parce qu'ils avaient peur d'en faire trop et de casser une croissance qui était très fragile. Après la récession qui a suivi la crise financière, puis la rechute de l'économie européenne en récession et une croissance qui a été très lente, très, très fragile. Donc c'est la première chose, nous serons dans une conjoncture économique un peu propice évidemment, avec une croissance faible. Par ailleurs, si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, dans les années 80, on a largement coupé dans les dépenses d'investissement. On les a réduites de moitié globalement, et c'est toujours réduit de moitié à peu près aujourd'hui. On a dans les années 90, plus encore, après la chute du mur, on a coupé dans les dépenses de défense nationale. C'était des variables justement. Aujourd'hui, le problème est que nous allons devoir au contraire accroître et les investissements publics, surtout, mais aussi les dépenses de défense nationale. Donc c'est une charge supplémentaire. Nous sommes aussi dans une situation où l'impact sur les finances publiques, sur les pensions, sur le budget des pensions, du vieillissement de la population, se fait sentir de plus en plus fort. Ce n'était pas le cas dans les 80, on commençait seulement à en parler dans les 90. Donc c'est aussi une des obligations d'augmentation de dépenses qui s'ajoute au besoin d'assainir les finances publiques. Ajouter à cela également une difficulté de nature, je ne sais pas s'il faut dire politique, mais institutionnelle, c'est que après les différentes réformes de l'État, les compétences, notamment de taxation et de prélèvement, mais aussi de dépenses, ont été réparties entre l'État fédéral et les régions. Et donc aujourd'hui, pour faire un assainissement comme on a fait à partir de 82 ou comme on a fait à partir de 1993, il faut négocier avec les régions. Or, ce n'est pas quelque chose qui va être simple. De nouveau, reprenons l'exemple de la réforme fiscale que portait le ministre des Finances du gouvernement sortant. Une de ses erreurs très claires a été de ne pas prendre langue préventivement avec les régions et négocier avec elles. Parce que toute mesure qui est prise par le fédéral touche aussi et de manière différenciée les régions. Donc c'est un autre handicap pour mener une véritable politique d'assainissement. La question se pose, est-ce qu'il faut assainir aussi vite et de cette manière-là? Ça, les experts et les partis ne s'entendent pas sur la question. Pour des partis comme Écolo, le PTB ou le PS, ces règles budgétaires seront trop strictes. Elles ne permettront pas aux pouvoirs publics d'investir suffisamment, en particulier dans la transition écologique, ce à quoi les promoteurs des règles disent, vous savez, d'abord, il faut restaurer les finances publiques, il faut assainir pour dégager des marges de manœuvre pour faire face aux crises futures, et puis de toute façon, disent-ils, pour la transition en particulier, qui demandera beaucoup d'investissement, pour la transition, au fond, ce sont les particuliers, les entreprises, les agents économiques privés qui devront faire l'essentiel. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut bien se rendre compte que tous les ménages n'ont pas les moyens financiers, simplement, d'investir dans leur logement beaucoup ont acheté leur maison, pas encore fini de la payer, ils n'ont pas les moyens d'investir dans la rénovation, l'isolation, le changement du système de chauffage ou d'eau sanitaire. Il faut bien se rendre compte aussi que la transition, le passage aux énergies renouvelables va imposer un profond remaniement et de tout le réseau de transport et de distribution d'électricité. Et donc ce sont les ménages qui vont devoir payer beaucoup plus cher. Donc, in fine.
Des ménages dont le pouvoir d'achat ne cesse de baisser depuis les différentes crises que vous avez évoquées, le Covid, la guerre en Ukraine.
Disons qu'on a de la chance en Belgique. On a une indexation automatique des salaires, ce qui a permis de protéger les ménages. En réalité, il faut se rendre compte qu'un autre problème, je m'en veux d'être aussi pessimiste, mais un autre problème pourrait très bien se poser à la Belgique, c'est de se retrouver à nouveau, comme en 81, 82 ou en 1903, avec un problème de compétitivité qui demandera des efforts aussi en termes de salaire. Parce qu'en réalité, jusqu'il y a peu, le scénario le plus probable pour la Banque nationale ou pour le bureau du plan était que, certes, l'indexation automatique des salaires a provoqué une hausse plus rapide des salaires chez nous que chez nos voisins, ce qui fait que temporairement, la compétitivité salariale, l'écart salarial s'est creusé avec nos trois voisins, mais que, avec la décrue de l'inflation, progressivement, l'écart va se refermer à l'horizon 2026. Mais cela, c'est sous l'hypothèse que l'inflation redescend en Belgique aussi aux alentours des 2%. Aujourd'hui, les experts, ceux qui observent les chiffres vraiment de tout près, s'inquiètent un peu. L'inflation sous-jacente reste élevée en Belgique. Les hausses de salaire attendues en France sont moins rapides, sont moins élevées qu'on ne le pensait, ce qui pourrait se traduire par un maintien du dérapage salarial plus longtemps que prévu, qui pourrait alors réclamer des mesures visant à restaurer la compétitivité. Vous voyez donc bien, Sarah, que les prochaines années, la prochaine législature ne sera pas de tout repos.
Pas mal d'efforts à faire.
Voilà.
Merci Dominique. L'IA et la mobilité, l'IA et l'enseignement, l'IA et l'Europe, ces deux lettres sont à la mode dans les podcasts du soir en ce moment. Mais qu'en est-il de l'impact de l'IA sur notre propre milieu, la presse? L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer le journaliste ou sera-t-elle un outil de prédilection pour booster les médias? Et qu'en est-il des droits d'auteur dans tout ça? Pour répondre à ces questions, Chloé Baudru reçoit Philippe Lalou, journaliste au Pôle Économie.
Bonjour Philippe.
Bonjour Chloé.
Dans notre société, l'intelligence artificielle gagne en influence. Les agents conversationnels comme ChatGPT ont pris leur place dans le monde médiatique. Est-ce que c'est le futur de l'information ?
Alors ChatGPT, les autres agents conversationnels vont tout doucement devenir de vrais assistants virtuels de nos vies. Vous allez utiliser ces agents pour toute une série d'actions dans votre vie quotidienne, y compris celles que vous faites sur un moteur de recherche. Quand vous avez l'habitude d'aller sur Google, pour ne citer que lui, pour avoir des réponses à des questions, mais en fait Google, ce qu'il fait, c'est qu'il vous propose une liste de liens vers des sites susceptibles de vous donner la réponse. Ce que les agents conversationnels espèrent pouvoir faire, c'est directement de vous donner la réponse en la synthétisant et en la contextualisant. Évidemment, il faut que cette réponse soit la plus correcte et la plus pertinente possible, mais on va en parler, mais ça c'est une question de temps. Et donc, à la question de savoir si c'est le futur de l'information, il n'y a aucun doute sur le fait que les agents conversationnels seront nos moteurs de recherche demain, y compris pour l'actu. Ça veut dire que si vous êtes passionné par l'actualité, le foot, la politique, la guerre en Ukraine, les questions sur les enjeux technologiques comme celles que nous évoquons maintenant, eh bien en fait vous pourrez poser la question en langage naturel à un agent qui vous répondra de manière totalement contextualisée avec le dernier carat de l'info. Alors on n'y est pas encore, mais clairement Google, Microsoft, OpenAI, donc qui est la société qui est dite ChatGPT, se positionne comme ça. Et donc, ça va évidemment poser des tas de questions.
Ces agents ont commencé à nouer des accords avec les éditeurs de presse. Quelles en sont les conséquences ?
Le problème, en fait, à la base, c'est quoi ? C'est qu'un robot ou les agents conversationnels ou les outils ou les sociétés qui éditent ces outils, mais il y a deux soucis. C'est que, un, elles n'ont pas de données. Et j'entends par données, par exemple, les archives des journaux. Et elles n'ont pas de journalistes. Donc, elles cherchent à améliorer la qualité de leurs réponses. D'une part, la manière dont elles s'expriment, donc le langage. C'est pour ça qu'elles s'entraînent sur des milliards et des milliards de contenus qu'elles brassent comme ça, scannent sur le Internet. Et d'autre part, ce qu'elle cherche à faire maintenant, c'est d'améliorer la pertinence en termes même d'actualité, c'est-à-dire d'avoir le dernier carat de l'info. Et pour ça, qui a le dernier carat de l'info? Ben, les journaux et les groupes de presse. Et c'est pour ça qu'ils cherchent à nouer des accords avec des groupes de presse pour pouvoir disposer de leurs données. Pourquoi? Ben parce que quand on moissonne, comme on dit, des données sur Internet, eh bien fatalement, on tombe sur tous des contenus qui sont protégés par des droits d'auteur. Et il y a un flou juridique aujourd'hui qui dit, ben oui, mais pour des robots, on pourrait comprendre, c'est du data mining, on pourrait comprendre qu'on peut malgré tout se nourrir de ces données-là. Mais les éditeurs, évidemment, ne l'entendent pas du tout de cette façon parce que c'est leur contenu qui sert à entraîner des intelligences artificielles qui, demain, joueront le rôle de journaux, en fait. Donc, on donne à manger à la bête qui va nous manger, en fait. Et pour s'en sortir, soit vous attaquez en justice, c'est ce que le New York Times a choisi de faire. Il y a un procès là, en cours contre OpenAI en disant « Mais pas question, vous êtes des voleurs et vous ne pouvez pas le faire. » Soit vous nouez des accords. Ce qui est certain, c'est que tant qu'on ne va pas résoudre cette question des droits d'auteur, ben, l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir se développer comme elle le veut. C'est un vrai frein au développement de l'IA. OpenAI aujourd'hui a donc signé des accords avec certains groupes de presse, mais pas tous. En fait, il semble que la stratégie soit plus une stratégie de langue. Donc, ils veulent couvrir, par exemple, l'anglais. Et donc, pour couvrir l'anglais, ils ont noué un accord avec l'agence de presse américaine Associated Press. Pour couvrir l'allemand, ils ont noué un accord avec le groupe Axel Springer, qui édite notamment Die Welt. Pour l'espagnol, le groupe Prisa, qui édite El País. Et dernièrement, donc, il y a eu un accord avec le journal Le Monde en France pour couvrir la langue française. Mais donc, pas Le Figaro, pas Le Soir, pas les autres. C'est juste, pour l'instant, une stratégie liée à la langue.
Et donc, quels sont les points positifs et négatifs que pourraient apporter ces accords entre les plateformes et les éditeurs?
Ce qui est curieux quand on voit ces accords avec les groupes de presse que je viens de citer, c'est que très clairement, ça change un peu le statut des groupes de presse. Typiquement, un journal, évidemment, s'adresse en direct à ses lecteurs. Puis, il y a eu les réseaux sociaux, évidemment. Donc, ils ont déjà eu une petite perte de maîtrise sur la diffusion de leur contenu à travers les réseaux sociaux. Mais quand bien même, on revient quelque part toujours vers le média et le site du média. Ici, ce qui se passe, c'est que plutôt que de s'adresser à ses lecteurs, les journaux en question vont fournir des contenus à une plateforme. Ils ont vraiment un statut de fournisseur de contenu labellisé pour, par exemple, ChatGPT, ou si vous êtes abonné, par exemple, au Monde, eh bien, vous auriez l'occasion donc, de consulter les contenus du Monde via ChatGPT. Donc, vous n'avez plus ce lien direct. Et c'est ça qui ennuie un peu, fatalement, pas mal d'éditeurs. Les éditeurs qui n'ont pas d'accord avec ChatGPT, il faut savoir que ces accords rapportent quand même, peuvent rapporter jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein, c'est le cas, semble-t-il, pour Axel Springer, ce qui est une source de revenus inédite et inespérée pour certains groupes de presse. Mais le revers de la médaille par rapport à ça, c'est que vous perdez en quelque sorte la maîtrise de votre paysage informationnel. Donc c'est comme si vous donniez les clés de l'information à des plateformes américaines, en fait. Ce qui pose un souci en termes de pluralisme, de diversité des médias, de maîtrise de cet environnement. Donc c'est un problème plus, on va dire, politique et éthique, mais ça pose aussi un problème existentiel pour les éditeurs qui, historiquement, vendaient du contenu à des lecteurs qui sont en librairie ou maintenant en ligne, et par ailleurs aussi entretenir des relations avec des annonceurs. Il faut savoir que la publicité est un pilier important pour pouvoir financer de l'information de qualité hein, pour les groupes de médias. La publicité est vraiment essentielle. Or, qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années? C'est que le marché publicitaire a filé vers des grandes plateformes comme Google, Meta, etc., qui absorbent 80% de la croissance de la publicité numérique. Et si demain la publicité arrive sur OpenAI, donc sur ChatGPT pour faire court, très clairement, c'est encore une part du gâteau qui s'en va.
Mais alors, quelles sont les solutions possibles pour les éditeurs pour éviter de se faire justement doubler par ces plateformes?
Que peuvent faire ces éditeurs qui n'ont pas noué d'accord avec OpenAI pour malgré tout garder la tête hors de l'eau? Ben, pourquoi pas? Et on sait qu'il y a certains groupes de presse qui y réfléchissent. Développer leur propre robot conversationnel qui sera entraîné sur leurs propres données. Prenons Le Figaro, par exemple. Imaginez que demain, Le Figaro développe leur agent conversationnel. Eh bien, vous interrogez cet agent par rapport à l'actualité, peut vous fournir un podcast, vous pouvez écouter cette actualité dans votre voiture, vous pouvez imaginer aussi qu'elle vous envoie des newsletters personnalisés parce que cet agent conversationnel connaîtra parfaitement vos goûts. il pourra anticiper vos besoins en termes d'actu, c'est à telle heure vous êtes plutôt intéressé par le sport, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une piste, mais la morale de cette histoire, hein, c'est qu'on voit bien que la publicité va encore, le pilier publicitaire va encore s'effriter un petit peu plus et que ça va être très difficile de le maintenir, que le salut reste toujours la vente de contenu, et là, il y a deux pistes, soit cette vente de contenu à des plateformes, soit via leur propre robot directement au lecteur. Et peut-être que ce sera un mix des deux, en fait.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À demain.